vigilante, informée, cultivée, rigoureuse, pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
Cube, bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée. Avoir un bon sens de l'humour après des années et des années et des années d'enquête. On nous dit aujourd'hui que le Bureau des enquêtes indépendantes a enfin fermé son enquête. T'sais, l'enquête sur les fuites, sur l'enquête, qu'on ne sait plus exactement qu'est-ce qui enquête, mais les fuites sur l'enquête de l'UPAC. Eh bien, voilà, l'enquête est finie. Je sais pas s'il y a encore quelqu'un qui suit ça au Québec là, après des années, mais 5 ans et demi. Je pense pas que vous voulez voir la facture. Hein. 5 ans et demi d'enquête, et là, donc, c'est pas fini dans le sens que c'est transmis au DPCP, au directeur des poursuites criminelles et pénales, qui va décider ce qu'il va faire avec ça. Donc, est-ce qu'il y a dans... On nous dit rien. Est-ce que dans le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, donc ça, c'est un peu la police qui enquête sur la police ou le Bureau des enquêtes qui enquête sur les policiers, comme c'est une fuite d'informations dans des services d'enquête policiers, l'UPAC, ben ça vient de là. Donc, est-ce qu'ils auront de la matière pour que des policiers ou des membres de l'UPAC ou d'autres gens soient accusés là, d'avoir orchestré ces fuites, ou est-ce que ça va tout simplement... Ça tombe à l'eau après 5 ans et demi d'enquête. Je sais pas. Mais vous allez vous souvenir de cette affaire là, qui avait quand même fait beaucoup de bruit, à un certain point qui avait impliqué le député Guy Ouellet à l'Assemblée nationale. Donc voilà, donc c'est au moins, l'enquête est finie. Le compteur, si vous pensez à vos taxes et vos impôts, le compteur a arrêté de tourner, l'enquête est finie. Le DPCP va donc décider s'il a en main la matière nécessaire pour porter des accusations ou pas. On vous parle tout de suite de cette décision. Elle a été rendue en toute fin de journée hier par le gouvernement Legault et par le ministre des Finances, Éric Girard, de taxer, comme le fait le fédéral, en fait, d'harmoniser avec le fédéral la façon d'imposer les gains sur le capital. Le gouvernement du Québec, techniquement, avait le pouvoir ou le droit on est autonome. Là, au Québec, on a nos propres pouvoirs en matière d'impôts. On aurait pu dire, nous, on fait notre affaire, mais non, on a harmonisé. J'en parle immédiatement avec Frédéric Beauchemin, député de Marguerite Bourgeois du Parti libéral. Bonjour.
Bonjour, M. Dumont.
Vous êtes d'accord avec ça?
Non. Aucunement. On a un problème de productivité au Canada. Ça va clairement pas aider. Ça taxe l'innovation, ça taxe l'entrepreneurship, ça taxe l'économie de l'avenir. C'est la pire chose à faire, surtout en période économique dans laquelle on est actuellement. De faire ça,
Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ce que le gouvernement Trudeau a fait? Puis comme député à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas d'accord que le gouvernement de la CAQ ait emboîté le pas?
On n'avait pas une obligation non plus. On aurait pu avoir être distinct au niveau fiscal, d'une certaine façon. Je pense que c'est un gros problème. Il y a tout le concept de la rétroactivité de cette taxe-là qui, selon moi, là, est extrêmement grave. C'est pas comme si quelqu'un décidait aujourd'hui de se lancer dans un modèle d'affaires, puis là, tu le sais, aujourd'hui, là, deux tiers de tes gains vont être taxés.
Non, il y a des gens qui ont acheté un duplex en 1980 quelque chose, puis là, au moment où ils vont, mettons, sont rendus à 72 ans aujourd'hui, ils songent à le vendre.
Exact.
Oups, ça change, les règles jeu changent.
Moi, j'ai parlé avec un de mes concitoyens dans ma circonscription qui, lui, a travaillé là, toute sa vie comme camionneur à partir de l'âge de 17 ans. Là, il a 62 ans. Il a économisé toute sa vie. Il avait un 20$ de lousse. Il s'achetait un gallon de peinture. Un autre 20$ de lousse, une feuille de G-Pop pour remplacer des trous. Il a passé ses soirées, ses week-ends, ses vacances à prendre soin de son duplex. Puis là, lui, quand il a commencé, il savait bien, 50% du gain allait être taxable. Là, maintenant, le gouvernement a décidé d'aller finalement pigé dans son fonds de retraite qui s'est fait lui-même. Là.
L'autre surprise qu'il doit avoir, c'est que cette semaine, si on prend le langage du gouvernement, ce camionneur-là, il fait partie des ultra-riches. Là. S'il a acheté un duplex puis qu'il l'a payé, il y a 30-40 ans passé, là, ça coûtait pas cher un duplex, non. Ça a pris une valeur énorme. Là, tout à coup, lui, il tombe parmi les ultra-riches.
Moi, en tout cas, ça me décourage. L'année passée, durant la campagne électorale, là, il y avait les taxes oranges, mais là, la taxe Trudeau-Legault, là, honnêtement, c'est la pire taxe pour notre économie, pour l'avenir. Puis on a un problème de productivité, puis notre fiscalité, elle est pas compétitive par rapport aux États-Unis. On est en retard par rapport aux États-Unis, donc les capitaux pour l'investissement d'entreprise, ils vont aller où est-ce que c'est le plus optimal pour eux, ils vont venir aller aux États-Unis.
Là-dessus, spécifiquement là-dessus, est-ce que le Québec, dans le Canada, mettons qu'on décide de rester autonome puis on s'adapte pas, on s'harmonise pas, ce qu'on aurait pu devenir un lieu d'investissement privilégié à l'intérieur du Canada?
Absolument. Ça aurait été une condition gagnante pour justement attirer plus de capitaux. C'est simple. Je pense que tous les gens qui regardent ça, que ce soit un petit entrepreneur ou un gestionnaire de grands portefeuilles, peu importe, ils vont regarder l'endroit où est-ce que c'est le plus optimal d'investir. Les capitaux, là, ça peut se promener tout partout. Mais ils vont venir à l'endroit où est-ce que c'est le plus optimal. Évidemment, à 1 ou 2 % de différence, ça bouge peut-être pas, mais à 6 % de différence, c'est sûr que ça va bouger.
Ça a été vendu, d'abord par le gouvernement Trudeau, là, mais ça a été vendu comme forcer les riches à payer leur juste part. Là. Bon, on a donné l'exemple, par exemple, des PDG qui sont payés avec des blocs d'actions, là, une partie de leur rémunération avec des blocs d'actions. Ben là, ils vont payer un taux d'impôt plus élevé là-dessus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'en défendant ça, vous défendez les riches?
Ben, moi, ce que je défends, c'est plus l'équité intergénérationnelle, puis je vais m'expliquer. Justement, l'exemple du camionneur que je vous parlais, là, lui, là, quand il va arriver là, à son dernier souffle, il va donner à ses enfants. Mais là, ses enfants, eux autres, là, ils vont être taxés encore plus sur le gain du coût du duplex. Donc, il n'y a pas d'équité intergénérationnelle à taxer. Une taxe qui est rétroactive comme ça, c'est une taxe sur la richesse, c'est une taxe sur l'accumulation des fonds de retraite des citoyens. Et malheureusement, ce que ça fait, c'est que ça nous rend encore moins compétitifs. Si on veut aller de l'avant puis faire en sorte qu'on soit plus juste pour l'ensemble de la population, il y a peut-être des ajustements à faire ici et là. Ça, je peux le donner. Mais la réalité, c'est que la fiscalité, c'est un élément de compétition pour attirer du capital, puis on en a besoin. On a eu zéro gain de productivité au Québec depuis 2020. Donc, zéro gain de productivité. Il faut absolument qu'on règle ce problème-là. Puis pour le régler, il faut mettre tous les éléments dans le bon sens.
Avez-vous été surpris que la CAQ, parce que c'est quand même un gouvernement là, qui est arrivé en 2018, on nous a vendu un gouvernement d'entrepreneurs, ouais. Pas très à droite, en tout cas moins que moi, là, mais disons, plus centre-droite, un gouvernement d'entrepreneurs, et surtout pas qu'il voulait augmenter les impôts. M. Legault a dit plusieurs fois, il n'y a jamais question d'augmenter les impôts. Avez-vous été surpris de l'annonce d'hier soir?
Bien, totalement. Moi, j'ai l'impression que mardi, quand je vais arriver au Salon Bleu, puis je vais les regarder, là, ils sont de l'autre bord de l'allée là, pour moi, là. Je vais me poser la question, est-ce que j'ai QS devant moi ou est-ce que j'ai la CAQ? J'en viens pas, ils dépensent comme des matelots tout à... qui sont sous, puis d'autre part, ils commencent à taxer la richesse. Ça ne se peut pas, là.
C'est pas organisé avec le gars des vues. On vous avait fait venir pour ce sujet-là. Le booking était fait avant, mais là, en après-midi, il y a une couple d'heures, le Parti libéral a émis son communiqué sur l'organisation, la date, là, en juin 2025 de la chefferie du Parti libéral. Est-ce que vous serez de cette course?
Bien là, pour le moment, je continue à faire mon petit bonhomme de chemin. Je pensais que ça allait être à l'automne. C'est en janvier, ça retarde un petit peu, mais ça, c'est pas bien grave. D'un autre côté, ça va donner plus de temps à faire du
terrain.
Donc,
c'est un peu plus tard que ce que vous vous attendiez.
Moi, je m'attendais plus qu'à l'automne. Que
la course a eu lieu à l'automne.
Exact, exact. Donc, c'est pas...
Donc là, la course va être à l'hiver, printemps, pour un vote en juin. Là. C'est loin, hein?
Exactement, exactement. Fait que moi, je continue à faire ma réflexion. Je continue à rencontrer des citoyens, puis... quand ça serait plus optimal. Là, c'est moins pressant d'annoncer ou de faire n'importe quoi, étant donné que ça retarde jusqu'en janvier. Donc, je vais continuer à faire mon exercice.
Est-ce que c'est... Je vous entends dire c'est très tard. J'ose poser la question, est-ce que c'est trop tard? Puis ma question est plus pour laisser au chef le temps. Parce que là, en gros, ça va laisser une année au chef pour se préparer pour l'élection. Il va être choisi juin 2025. Puis l'été d'après, été 2026, là, on est en campagne électorale. Un an pour se préparer étant se faire connaître, son programme, son équipe, c'est pas beaucoup, hein?
C'est un peu moins de temps que je pensais que ça allait être, ça c'est certain. Mais d'un autre côté, il va avoir une attention médiatique un peu plus élevée que normale. Puis on va avoir un débat d'idées, ce qui va être positif. Ce qu'on veut avoir, nous autres, c'est une multitude de candidatures pour faire en sorte que, justement, toutes ces idées-là, le gros brassage d'idées se fasse, en espérant qu'évidemment, ça va connecter avec l'électorat. Puis à partir de ce moment-là, l'attention médiatique va être plus importante pour nous. On pourra faire du terrain. On verra à ce moment-là. Puis je pense que je suis pas mal confiant.
Vous pensez pas que Denis Coderre, parce que lui, il est sur le terrain, là, on le voit, on voit ses communiqués, il est en région, l'autre jour, il était en Abitibi, dans le bas du fleuve, il est tout partout. Vous n'avez pas l'impression qu'il prend une avance là auprès des militants, qu'il prend une avance qui pourrait devenir insurmontable?
Ça m'inquiète pas. Honnêtement, M. Coderre fait une job pour lui-même, puis c'est tant mieux pour lui, puis je pense que ça brasse les idées, puis ça aide à faire réactiver, si on veut, l'intérêt pour le Parti libéral. Donc, en tant que tel, ça, c'est positif. Moi, de mon bord, je continue à faire des choses de mon côté, puis je pense que pour ce qui est de la course à la chefferie, il n'y a pas d'avantage ou de désavantage. Je pense qu'on va être capable de pouvoir raisonner dans le public tous en même temps.
Frédéric Beauchemin, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Au revoir.